scooters électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Alors que l'actualité juridique de ce printemps oriente le législateur vers un sujet sensible, celui de la mort via la discussion de la proposition de loi relative à l'aide à mourir, de nombreuses questions sont également relancées autour de l'articulation délicate entre mort et numérique. J'ai le plaisir de recevoir pour en discuter deux chercheurs passionnés qui ont travaillé sur le sujet avec des regards complémentaires. En studio, Céline Béguin-Fenel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en droit privé à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Nombreux sont vos écrits, vos interventions aussi permettant de tisser les liens juridiques entre les usages du numérique et la mort. Et à distance, Martin Judier-Costès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sociologie, chercheur associé au laboratoire de sciences sociales PACT à l'Université Grenoble-Alpes. C'est avec un double regard, celui du sociologue, de l'anthropologue aussi, que vous avez travaillé sur le sujet de la mort et au plan numérique sur le sujet du deuil. Plus particulièrement, on en discutera. Merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. Mort et numérique, chers auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle émission des Temps électriques.
Ça m'intéresse pas ton truc, j'en veux pas! C'est obscène d'utiliser son nom, putain, son nom, mais t'es cinglé! C'est douloureux! Tu le sais que c'est douloureux!
C'est la raison pour laquelle je t'ai inscrite justement.
C'est quoi ce truc? À quoi ça sert? C'est qu'un pauvre truc de...
Tu cliques sur le lien, et ensuite tu pourras lui parler.
Commencer à parler?
Tu tapes des messages, comme pour un email, et ça te répond, comme lui l'aurait fait.
Mais il est mort!
C'est un logiciel. Il crée un simulacre de la personne. Tu lui donnes son nom.
Il fouille dans son passé. Il lit tout ce qu'il ou elle a pu écrire sur Internet de son vivant, tous ses posts sur Facebook, ses tweets, tout ce qui a été publié.
Je me suis contentée d'entrer le nom d'H. Le système s'est occupé du reste.
Non, mais c'est un truc de taré! De taré!
Écoute, dis-lui bonjour déjà. Si ça te convainc, tu lui donneras accès à sa messagerie privée.
Plus il a de données, plus il lui ressemble.
Ça le remplacera jamais.
C'est vrai.
Mais ça fait du bien.
Cet extrait de Be Right Back, premier épisode de la seconde saison de la série Black Mirror, nous plonge sans filtre dans un scénario plus que percutant. Une jeune femme, confrontée à la mort soudaine de son conjoint, se retrouve tentée par l'utilisation de nouvelles solutions technologiques, lui permettant de continuer à interagir avec un clone virtuel de son proche, voire plus encore. Une projection fictive, bouleversante, dérangeante aussi, pointant avec justesse certains enjeux qui pourraient naître d'une utilisation toujours plus poussée jusqu'à l'intime des outils numériques. À sa sortie à la télévision en 2013, cette projection pouvait sembler folle, comme d'ailleurs beaucoup de questions soulevées avec une anticipation déconcertante par les réalisateurs de Black Mirror. Et pourtant, imaginait-on qu'une dizaine d'années plus tard, l'intelligence artificielle nous permettrait de parler à nos morts, enfin à leurs deadbots, des chatbots qui simulent les personnes décédées. S'il n'illustre pas tous les liens qui peuvent se tisser entre mort et numérique, cet extrait pose clairement la question du sort de nos données numériques après la mort, celle évidemment aussi du rapport au deuil. Les avancées du numérique en matière de partage et de conservation des données peuvent désormais être employées aux fins d'une quête d'immortalité en ligne, contournant, repoussant, voire défiant ainsi la mort au sens physique. Que devient notre vie numérique après notre mort? Peut-on vraiment mourir quand nos données restent en ligne? La mort change-t-elle de sens à l'ère numérique? Des sujets riches, à la fois intimes, philosophiques, très actuels aussi, dont on débat dans un instant avec nos invités.
Yeah.
qui soulève, exprime toute l'ambiguïté de cette relation entre le numérique et la mort qui va occuper nos échanges. Alors il y a plusieurs façons de relier les deux, mort, numérique, c'est un sujet très vaste et très complexe évidemment. On peut dans un premier temps s'intéresser aux traces numériques de la personne décédée et à la transmission involontaire d'informations ayant existé en ligne. On va le faire avec vous, Céline Béguin-Fenel, vous vous êtes penchée sur cette question. Et pour y réfléchir, vous utilisez une idée intéressante, dégagée par des travaux sémiologiques sur la communication, le concept d'hypostase numérique du mort. Alors, je vais vous laisser définir déjà ce dont il s'agit peut-être.
Alors l'hypostase, le nom est peut-être pas dans le sens commun, mais par contre c'est une excellente vision puisque ça permet de voir l'ensemble des traces numériques que laisse une personne et qui manifeste, d'après donc ses collègues de sciences de la communication, une qualité de la présence de la personne. Ça veut dire que les documents qu'elle a partagés, les éléments qu'elle a numérisés, des selfies, des dates, des heures, un ensemble de données personnelles vont pouvoir en fait être prises en compte, quel que soit leur domaine. Et c'est cela qui va donner les traces de la vie et peut-être aussi les traces du vivant défunt.
Alors cette idée de traces numériques, c'est celle-ci qu'on va suivre en filigrane de nos propos. Parce que, en même temps, vous le soulignez, le droit des données personnelles, c'est un droit des vivants. Et l'associer, voire l'étendre à des personnes décédées, évidemment, ça peut surprendre. Et en même temps, la notion juridique de données à caractère personnel, elle est pourtant étendue. Alors, question, à qui appartiennent les données d'une personne décédée ? Concrètement, profils réseaux sociaux, sites de gens en ligne, administration publique, autres. À qui ça appartient à l'issue du décès ?
Donc, comme vous le soulignez, la fin de la personnalité juridique, quand on meurt, c'est la fin de la protection de la personne elle-même, donc de sa vie privée, mais aussi de ses données personnelles, tous les éléments qui l'identifient. Donc s'il n'y a plus une législation de la personne elle-même, ses proches vont pouvoir se prévaloir de leur propre vie privée, de la protection des informations qui les concernent. Mais on va avoir une protection qui reste, par exemple la dignité humaine va rester protégée, même si l'individu en soi ne voit pas ses données personnelles encore protégée dans la mort. On est à la limite de la protection de l'identité humaine et de l'identité personnelle.
Donc concrètement, qui peut avoir accès à nos comptes après le,
alors
après
en théorie, personne. Ouais. Parce que la protection du secret des correspondances, de la vie privée, vont faire en sorte où votre co-contractant, il ne peut pas accéder aux contenus qui ne sont pas les siens puisqu'il n'est pas engagé dans un contrat avec vous. C'est votre conjoint, c'est vos enfants qui l'étaient. Alors, on a créé un dispositif législatif avec la loi République numérique du 7 octobre 2016. Donc, comment faire quand une personne décède et qu'elle n'a pas elle a laissé des indications ou qu'elle n'en a pas laissé. Donc le texte, très novateur, propose de faire des directives générales. Donc de dire que pour la communication de ces données après sa mort, on va pouvoir les transmettre à telle ou telle personne. On choisit comme une personne chargée de l'exécution de la protection des données. Et ça ressemble donc à des contextes que l'on connaît, par exemple l'exécuteur testamentaire, de donner pouvoir par un mandat à son conjoint, à ses enfants, d'agir pour vous. Et dans ce cas-là, les clauses contractuelles, par exemple d'un blog qui serait souscrit par vous, font que normalement votre famille ne peut pas y accéder. Eh bien ce texte-là donne pouvoir à votre famille, à vos proches qui sont vos héritiers, de venir en fait défendre vos droits post-mortem après votre mort. Et les clauses qui seraient contraires à cela dans les conditions générales d'utilisation d'un réseau social, d'un compte de jeu sur un pari en ligne ou sur n'importe quelle activité numérique sont réputées non écrites. Mais ça ne suffit pas. Tout le monde n'a pas pensé à prendre des directives de dernière volonté numérique, même si un congrès des notaires récent a souligné l'intérêt de prendre ces mesures. La question, c'est bien de savoir s'il y a des mesures plus précises qu'on pourrait prendre.
Alors, je crois que Martin-Julien Costes voulait réagir à distance.
Oui, merci pour ces précisions. Effectivement, ce qui est intéressant là, avec le discours de Céline, c'est que justement, en fait, il y a la pratique du droit. Et en fait, il y a les pratiques, on va dire, de tout le monde, en fait, en la matière. Mmh. Et pour l'instant, en tout cas, dans l'état des recherches en sciences sociales et humaines en France, en tout cas, on voit très bien qu'en fait, cette loi-là n'est que très peu connue, en fait. Et qu'effectivement, même si on nous a légué des choses, on n'est pas forcément au courant. Et que généralement, dans la pratique des personnes lambda comme vous et moi, on n'a pas encore pensé ou on s'est pas dit, tiens, à qui est-ce que je lèguerais mon profil de tel ou tel réseau social ou de tel site internet et autres. Donc, que c'est un sujet qui est encore vraiment très, très neuf. Dans les pratiques aussi qu'on peut identifier, il y a aussi des pratiques. Alors, soit on vous a légué ces comptes-là, mais aussi on peut éventuellement utiliser un compte automatisé où en fait un accès est déjà automatisé sur un ordinateur, sur un smartphone. Et tant que vous avez accès à ce smartphone ou à cet ordinateur et que les codes sont automatisés, par exemple, vous pouvez continuer, même si vous n'avez pas le droit légalement de le faire, à poursuivre une activité au nom du mort, en fait, comme si vous étiez la personne décédée, par exemple.
Mmh. Oui, parce qu'en fait, si rien n'a été prévu, si rien n'a été prévu, les données restent en ligne, sauf action des héritiers, ça reste.
Voilà, tout reste en ligne parce que les réseaux sociaux se sont posé la question à partir de 2009, en fait, aux États-Unis, notamment pour Facebook, parce qu'il y a forcément des gens qui décèdent chaque année sans avoir pensé à transmettre leur code. Comme ça vient d'être souligné, le droit est là. Quand les personnes n'ont pas transmis leur code à un ami, n'ont pas anticipé, et c'est vrai que les réseaux sociaux pour cela ont été les premiers à avoir le problème, à créer des comptes légataires, des comptes legacy, où en fait vous avez une personne qui pourra accéder à votre compte si jamais vous mourrez. Mais attention, les juristes toujours sont très précautionneux, vous ne pouvez pas récupérer les photos sur une adresse de courriel ou récupérer les photos sur un réseau social. Vous pouvez venir le mettre en mode mémoriel, en mode cette personne est maintenant décédée, mais on peut toujours lire par exemple ce qu'elle a écrit sur Twitter et qui serait maintenant sur X. Par contre, vous n'accédez pas directement à ces contenus. Et ça, c'est frustrant aussi pour les personnes parce que elles ne sont pas investies du droit de faire à la place de la personne, sauf si la personne vous a donné ses numéros de compte. Et ça, l'organisation qui est à l'heure actuelle, elle est souvent mal maîtrisée parce que elle est beaucoup plus serrée que ce qu'on pourrait croire. On n'a pas le droit de faire grand-chose. Et la loi de 1978 sur l'informatique et les libertés, corrigée en 2016, permet d'avoir accès pour organiser une succession, pour pouvoir avoir besoin d'éléments, par exemple, qui sont nécessaires à la transmission d'une succession, pour obtenir certains souvenirs de famille. Mais ce sont à chaque fois des dispositions extrêmement précises qui vont ne pas satisfaire l'ensemble des gens. Il faut donc mieux organiser soi-même et donc il faut que chacun prenne conscience des traces qu'il laisse et qu'il choisisse ce qui va en être fait. On peut clôturer le compte par soi-même, donner l'indication, par exemple, aux médias que si vous décédez, on clôture le compte, mais votre famille pourrait le faire à votre place. C'est ce que dit la loi 78 maintenant.
Martin Gillier-Costès.
Oui, en complément à ce qui vient d'être dit, il faut quand même préciser qu'effectivement, il y a effectivement cette date de 2009, et pour l'instant, en tout cas, je répète, en France, ce n'est pas une pratique qui est connue. Alors que du coup, évidemment aussi avec ce qui s'est passé en 2016, tous les réseaux sociaux sont obligés, généralement en 2-3 clics ou 2-3 informations, de devoir vous informer que vous pouvez léguer. Pour autant, c'est quand même un avantage économique de continuer à faire vivre des morts vivants ou des vivants morts sur les espaces numériques, puisque du coup, on a tous et toutes, dit que ces traces-là, numériques-là, appartenaient à ces grands groupes. Donc légalement aussi, après je ne suis pas juriste, mais aussi économiquement parlant, en fait ces traces-là appartiennent à la base de notre vivant, mais comme quand on est mort, à la société qui a généré ce service-là et qu'on a utilisé de notre vivant et après de notre mort. Avec cette précision-là aussi, j'aimerais compléter en fait en disant que typiquement en France, en tout cas, et je pense dans d'autres pays, c'est la même chose, vous avez des entreprises qui aujourd'hui commencent à solliciter et à produire des services justement pour gérer les comptes numériques des morts en fait, et que vous pouvez avec un service moyennant quelques centaines d'euros voire un petit peu plus en fait justement aller chercher les codes, aller solliciter les gros groupes, etc. au nom du mort si vous êtes une partie de la famille.
Sur cette réaction tenant aux entreprises privées et finalement leur poids dans la gestion des données individuelles, Céline Béguin, est-ce que vous voulez réagir ?
Eh bien, en fait, depuis 2016, ils sont censés, tout prestataire de services de communication publique, donc les messageries, les réseaux sociaux, ils sont censés informer chaque utilisateur du sort des données à son décès et lui permettre de choisir de les communiquer ou non à un tiers qu'il désigne. Donc, il y a, sur certaines messageries électroniques, la possibilité, justement, de désigner une personne. Mais moi, je possède plusieurs boîtes de courriel sur plusieurs opérateurs, notamment des Français, et personne ne m'a jamais dit que je pouvais l'utiliser. Et donc, ils ne communiquent pas aussi là-dessus parce que c'est un texte dont ils ne se sont pas saisis. Et après, sur les réseaux sociaux, comme on évalue la qualité des réseaux sociaux au nombre d'abonnés, ce sont des cénotaphes, c'est-à-dire ce sont des cimetières. Il y a des tas de comptes morts qu'on ne souhaite absolument pas supprimer, soit parce qu'ils ont un intérêt d'avoir suivi une personne connue et de pouvoir se référer à ce qu'elle a publié, soit parce que tout simplement, ça fait des abonnés et que donc on ne va pas se priver de cette manne économique puisque tout sur les réseaux sociaux est financé par la publicité et le nombre de personnes qui fréquentent le réseau.
Bien sûr, alors sur cette question un peu du mémoriel et des pages en guise de mémoriel, on va y venir dans un instant en abordant la thématique du deuil. Mais juste avant ça, puisqu'on a donc discuté la question des directives anticipées, avec vous au plan juridique, il y a une remarque que j'aimerais soulever et vous conduire à faire, c'est que un sujet parallèle est aujourd'hui discuté dans le contexte de la proposition de loi sur la fin de vie, puisque même si le numérique n'est pas directement au cœur de ce texte, c'est le recours au registre national des directives anticipées pour rendre la volonté du patient accessible par les médecins, qui montre aussi, d'une certaine façon, comment le numérique pourrait intervenir de façon cruciale pour une traçabilité, pour une mise en œuvre des pratiques. Qu'est-ce que vous en pensez, Céline Béguin, dans cet autre usage du numérique ? Évidemment, la question est différente ici, mais elle permet de faire un lien avec la question de la fin de vie et d'un autre usage du numérique, et de l'anticipation surtout.
Alors moi, j'avais déjà constaté que les directives anticipées qui permettent à une personne de dire si elle voudrait être ranimée, de mettre en avant en fait sa volonté par rapport au suivi de sa santé, ces dispositions, elles existaient déjà dans le Code de la santé publique et on devait avoir un registre national des mesures en fait de anticiper de désignation d'une personne pour réagir à votre place ou les prendre en compte. Et en regardant avec l'arrivée des débats sur la loi sur l'euthanasie, on se rend compte que les décrets n'ont jamais été pris. Donc, il n'y a pas de registre national. On peut les enregistrer, par exemple, sur son interface, parce qu'on peut tous avoir un dossier médical partagé, mais il faut encore en avoir un et puis l'avoir alimenté. Donc, dans la majorité des cas, les médecins n'ont pas forcément accès à vos directives anticipées. Alors, elles sont valables sans limite de temps, mais encore faut-il qu'il y ait une connaissance. Et là, le gros avantage du texte qui est discuté à l'heure actuelle, l'Assemblée nationale a voté sa version, le Sénat va bientôt se prononcer, eh bien, c'est que justement, les personnes vont être peut-être plus nombreuses à manifester leur volonté et le stockage qui va être fait sur un système numérique, accessible aux médecins, va donner en fait une meilleure visibilité sur les volontés des personnes qui pour l'instant étaient difficiles à trouver parfois parce qu'on les écrivait dans l'essentiel des cas sur des documents papier volatiles à un établissement de santé quand on allait y faire un examen un peu intrusif ou quand on y suivait une hospitalisation. Donc cette centralisation est une réflexion très intéressante, me semble-t-il. On espère qu'elle sera vraiment poussée jusqu'au bout devant le Sénat.
Martin Julien Costès.
Oui, par rapport à ce qui vient d'être dit, effectivement, la pratique des directives anticipées, c'est un vaste sujet qui touche à pas mal de choses en fait et qu'on ignore un peu. Alors, première réflexion, c'est le tout numérique. Il faut quand même un peu s'en méfier parce que si on numérise vraiment tout, après, c'est aussi un peu un fantasme de tout pouvoir stocker au même endroit, etc., pour que opérationnellement on puisse avoir toutes les infos pour un patient. En fait, on est des millions et en fait ça va rester quand même assez compliqué. Ça, c'est un premier élément. Un second élément, c'est aussi la pratique des soignants et des soignantes. C'est quand, pour l'instant, en fait, les directives anticipées non numérisées ne sont que très peu rédigés par les soignants eux-mêmes pour leur propre cas. Et quand il y a des personnes qui arrivent à l'hôpital ou dans une unité de soins, en fait, les pratiques soignantes ne sont pas encore automatisées dans le sens où, en fait, c'est pas encore un réflexe ou une obligation vraiment très bien, on va dire, pas approfondi, mais appliqué en tout cas dans les services. Et ça, vous avez un nombre incalculable de témoignages autour de ce sujet-là. Et aussi dans d'autres cas, en fait, et dans des cas bien plus importants que ce qu'on pense, en fait, cela dépend de où et comment est-ce qu'on meurt. C'est-à-dire que dans plein de services, notamment en réanimation, où pas mal de gens décèdent en France, en fait, les directives anticipées, les soignants vous disent très bien qu'elles sont la majeure partie du temps inutiles, puisque du coup, les gens qui arrivent dans les services sont déjà intubés, par exemple, ou alors vont mourir dans les quelques jours. Donc, en fait, ces questions des directives anticipées, en fait, c'est un bon outil dans certains cas, mais il ne faut pas trop non plus fantasmer sur le fait que ça résolverait plein de choses. En amont, enfin, en complément de ce que je viens de dire aussi, c'est que les directives anticipées, en fait, elles doivent, dans l'idée, en tout cas dans ce qu'elles proposent, être partagées. Et ça, on voit que dans la pratique, c'est pas forcément vrai, c'est-à-dire partagées avec d'autres que soi-même. Et que des directives anticipées, ça peut être un bon outil dans certains cas, et en même temps, en fait, ça renvoie toujours à la question de est-ce que c'est partagé, c'est-à-dire est-ce que les autres proches de moi sont au courant de mes propres directives avec la personne de confiance ou des choses de cet ordre-là, et est-ce qu'ils sont éventuellement d'accord, et est-ce que en fait je suis la personne la seule à décider dans ces situations-là. Donc, moi, si vous me posez la question personnellement, éventuellement, j'aimerais pouvoir choisir tout seul, mais en fait, je suis dépendant des autres, que ça soit des soignants, mais aussi des proches de moi qui ont une influence sur moi, et que ça pose toujours cette question de ok, choix individuel, certes, mais quid des autres, les autres étant ma proche famille, mes amis, et plus largement, ceux qui vont prendre soin de moi lorsque ces moments viendront.
Oui, donc une volonté de traçabilité, mais effectivement des limites matérielles et humaines aussi. Alors, il y a d'autres sujets, plus indirectement encore, dans cette proposition de loi. On va pas toutes les aborder ici, mais le numérique, il en est aussi question du point de vue... Ah, je crois que Céline Béguin voulait réagir.
Oui, je voudrais rajouter quelque chose. Là, en fait, ce qui est l'atout de la loi pour que ce soit vraiment débattu, c'est qu'il y aurait un système d'information pour le suivi des procédures, avec un article spécial dans le Code de la Santé publique. Et la question, c'est est-ce que uniquement les médecins ou aussi des infirmiers y auraient accès? Donc là, ça systématiserait le processus. Donc en fait, quand vous allez, vous par exemple, faire une opération de chirurgie, on vous fait remplir une demande en général, parce que ce sont des formulaires standardisés. Et c'est vrai que l'essentiel des gens n'utilisent pas les formulaires standardisés, ils ont pris des mesures sur un document papier. Mais on va les interroger eux. Et c'est vrai que comme on le voit dans l'échange, eh bien, ils discutent avec leur famille, parce que c'est possible que vous, vous souhaitiez ne pas être animé, mais votre conjoint souhaite que vous le soyez. Oui. Mais c'est vous qui déclarerez vos volonté. Et votre conjoint pourra être entendu si vous n'avez rien déclaré pour dire ce qu'il pense que vous avez formulé. Donc ici, la systématisation avec un fichier informatique va peut-être permettre plus de véracité où chacun va révéler ce qu'il pense lui-même sur le processus de déclaration des demandes anticipées sur faut-il vous ranimer ou non.
Alors Martin, j'ai dit que ça voulait réagir, bien sûr.
Oui. Alors c'est effectivement ça m'a votre intervention Céline m'a permis de penser aussi d'ajouter que en fait les directives anticipées est peut-être un bon outil mais se heurte un petit peu comme la question du don d'organes en son temps au fait que il y a plein de gens même si on aimerait très bien qu'ils les rédigent ces directives anticipées n'ont absolument pas envie de faire ça. C'est-à-dire que cette thématique de anticiper le fait qu'un jour je vais mourir ou que je vais souffrir ou qu'il faudrait que je réfléchisse à comment est-ce qu'on va prendre soin de moi et qu'est-ce que je voudrais dans tel ou tel cas, déjà c'est très compliqué comme exercice, c'est-à-dire que même les soignants vous le disent en disant mais en fait il y a tellement de situations et une variété de situations importantes qu'en fait ça va, techniquement c'est aussi déjà difficile, mais aussi simplement de se poser et de se dire ok alors qu'est-ce que je veux. Est-ce que je veux un testament, je veux léguer ci, ça, je veux pas qu'on fasse ci, je veux qu'on fasse ça. La réalité est que une grande majorité des Français et des Françaises ne souhaitent pas aller jusque-là. Mmh. Parce que du coup, ça renvoie à des questions éminemment intimes, familiales évidemment, relationnelles avec les gens avec qui vous êtes dans tel ou tel cercle familiaux, amicaux. Et que ça, tout dispositif, que ça soit les directives anticipées ou autres, qu'elles soient numérisées ou pas, là, ça achoppe avec cette question de « Ok, jusqu'où est-ce que je suis capable, moi, individuellement, d'aller sur ces questions-là » et la place d'une politique publique de santé autour de ce sujet-là.
Oui, alors en lien malgré tout, même plus indirect, comme je l'annonçais, ce que prévoit aussi la loi, c'est de privilégier à côté de l'écrit d'autres modes, notamment des aspects numériques tenant à des enregistrements vidéo, pour avoir des supports complémentaires pour attester de la lucidité du patient, mais aussi de la persistance d'une demande, par exemple, pour un patient incapable d'écrire ou de parler. C'est un sujet complémentaire, mais là, le numérique en tant que mode de preuve de l'expression, puisqu'on évoque la question de l'écrit ou juste de l'expression tout court. Est-ce que, sur ce dernier point tenant à la proposition actuelle, vous voulez réagir, Céline Béguin, peut-être ?
Mais en fait, j'attends surtout ce que va dire le Sénat, parce que il faut pas oublier que dans un texte législatif d'ampleur comme celui-ci, les réflexions mûrissent avec le temps. Et que pour l'instant, je pense que la question n'était pas très développée, me semble-t-il, dans le rapport préalable.
Non, très peu. Ouais.
Ou en tout cas, moi, je n'en ai pas vu beaucoup d'éléments. Donc, je pense que cette impensée dont on vient de parler est très important. Et comment va-t-il être apprécié dans la dernière version du texte ? Je vous avoue que je suis impatiente de le découvrir, sans doute au mois de mai.
Bon, alors, dans cette attente-là, je vous propose qu'on prolonge l'échange et qu'on l'axe sur un autre point que j'ai annoncé, c'est-à-dire de façon très complémentaire, en lien avec vos travaux, Martin-Julien Costès, la question du deuil. La question du deuil, puisque plusieurs de vos écrits vous ont conduit à vous interroger sur la transformation des expériences de deuil à l'ère du numérique, et vous démontrez notamment qu'il y a toute une espèce de porosité des frontières spatiales, temporelles, des espaces numériques de commémoration du défunt. On a évoqué il y a quelques instants la question des réseaux sociaux. Évidemment, c'est à ça ici qu'on pense en particulier. On a une ambivalence entre l'usage du numérique qui va être au soutien du deuil, mais qui peut aussi être un espace plus perturbateur pour les proches. Alors, si on analyse déjà cet espace, peut-être pourriez-vous nous expliquer en quoi cette localisation ici, elle est perturbée, en quoi l'usage des réseaux sociaux va bouleverser ce rapport au temps et à l'espace dans la question du deuil ?
Alors, il va le bouleverser tout autant qu'il le bouleverse dans notre quotidien de vivant. J'aime bien répondre de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il y a quand même une continuité entre des pratiques que l'on fait avec des vivants et des pratiques numériques que l'on fait éventuellement avec des morts. Ces espaces-là, en fait, s'ajoutent. En tout cas, c'est ce que nous apprennent les sciences sociales et humaines sur ces sujets. En tout cas, les différentes recherches qui ont eu lieu et qui sont en cours, c'est en fait, ça n'enlève pas d'autres pratiques de deuil, d'accord. Cela ne les supprime pas, pardon. Mm-hmm. Mais ça s'ajoute en fait, et que très souvent, si une relation numérique préexistait au décès, c'est-à-dire que vous étiez lié sur telle ou telle plateforme, tel ou tel réseau social avec la personne défunte, potentiellement, vous pouvez avoir besoin, envie, être en capacité de continuer et de poursuivre cette relation-là numériquement. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire des choses à côté autres que le numérique, mais vous pouvez aussi avoir des pratiques de deuil numérique, c'est-à-dire que je vais continuer à aller sur tel ou tel réseau, sur la page, sur le profil de la personne, juste pour la consulter, pour voir ce qui a été fait ou ce qui a été produit et posté sur ce profil-là, éventuellement moi-même ou vous-même faire quelque chose, poster un mot, une image, un son, une réaction, et ça en étant visible par les autres vivants qui vont voir que justement, plusieurs personnes postent des choses sur le réseau, le profil de la personne décédée. Et en tant que socio-anthropologue, ce qu'on voit là, c'est sur le profil d'une personne qu'on sait décédée, vous avez des vivants qui communiquent autour et sur ce profil-là, comme si en fait la personne, paradoxalement, pouvait réceptionner ou en tout cas ressentir les attentions d'amitié, d'amour qui lui sont adressées. Mmh. Via cette plateforme-là ou les réseaux sociaux. C'est rien de nouveau sous le soleil d'une certaine manière, puisque du coup, le numérique rend visible pour ceux qui sont connectés ces adresses et ces témoignages d'amitié ou d'amour, mais pour autant, on le faisait déjà avant et on continue à le faire dans d'autres espaces, à d'autres moments avec d'autres personnes. Mmh. Et que là, ce qui est intéressant avec le numérique, c'est que ça rend visible certaines formes d'expression des émotions du deuil, d'accord, et qu'elles sont visibles pour les uns et les autres. Elles sont visibles, elles sont semi-publiques, semi-privées, parce qu'il faut être connecté au compte pour les voir, Et en même temps, vous avez aussi des pratiques plus intimes où vous avez des gens qui vont laisser des messages en messagerie privée aux morts. Mmh. Et là, on a encore une autre forme de tentative de communication avec le mort.
Et ça, pour le coup, au sein de vos travaux, cette question du deuil, notamment chez les adolescents, elle est très mise en exergue, c'est-à-dire que les réactions des jeunes, notamment face à la mort, et leur besoin d'aller explorer comme ça cette mise en scène, un peu des rites du moins différents dans cet espace numérique, vous le décrivez de façon précise, c'est une véritable souhait de maintenir une continuité des liens avec le défunt alors que la personne n'est plus là et de faire vivre les réseaux. Il y a un espèce de paradoxe qui est très troublant, que ce soit dans l'utilisation de l'image ou du propos, évidemment.
C'est troublant, mais en fait, c'est troublant. Alors, je précise que moi, j'ai effectivement travaillé sur les adolescents et les jeunes adultes. Et ensuite, on a travaillé avec des chercheuses françaises sur la population au sens large, en fait. Et qu'on voit bien que pour tout décès aujourd'hui d'une personne qui est connectée, c'est-à-dire qui a des réseaux sociaux ou une plateforme, en fait, vous allez avoir des vivants qui vont se connecter et qui vont s'adresser aux vivants entre eux et aux morts. Sur la même, sur le profil de la personne, que ça soit des jeunes adultes, des adolescents ou des plus vieux, si vous voulez les nommer comme ça. Et que ça, c'est troublant, certes, mais on est dans le monde du deuil et de la mort et qu'en fait, c'est tout aussi troublant, en fait, de voir des personnes qui s'adressent à un cercueil lors d'une cérémonie alors que la personne est décédée sept jours plus tôt. Mmh. Les gens vont continuer à s'adresser à la personne comme si, d'une certaine manière, la personne dans le cercueil pouvait ressentir, entendre, comprendre les adresses qu'on lui fait, justement, alors que cette personne-là est décédée 7 jours plus tôt. Mmh. Et qu'en fait, ce qui est intéressant avec le numérique, c'est que ça met en avant des choses qui sont déjà ancrées, en fait, ailleurs et dans d'autres endroits, mais le numérique ne change pas tant que ça, il rend visible des pratiques qui sont déjà finalement assez ancrés.
Oui, ça le rend visible, parce qu'ici, le cyberespace contribue évidemment à rendre visible le deuil, mais ça le rend visible peut-être dans une dimension plus collective que ça ne le serait sinon. Et du coup, dans cette, enfin, en tout cas, c'est le sentiment que moi, ça me donne, cette dimension collective. Est-ce que vous diriez que dans cet aspect collectif, ces pratiques nouvelles en ligne, dans la nouveauté du fait d'être en ligne et non pas nouvelles en tant que telles, participe d'un mouvement qu'on dit de déni et de mise à distance de la mort, ou au contraire, est-ce que ça irait à contre-courant? Est-ce que c'est une valorisation ou une négation?
Alors, il faut. Moi, ma position en tant que socio-anthropologue, c'est qu'effectivement, toute société et ses membres mettent à distance ce qu'on nomme la mort. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas se leurrer, en fait, on ne fait que contourner, on ne fait que essayer d'approcher ce sujet-là. Mais que, en fait, si on ne met pas à distance ce qu'on nomme la mort et les morts, on meurt soi-même et on meurt en tant que société. Donc, en fait, toutes nos tentatives de rites funéraires, de parler de ces choses-là, de parler aux morts ou de parler du mort, c'est des tentatives pas vaines, mais qui contournent, en fait. Un petit peu comme le soleil, vous êtes incapable de la regarder vraiment en face, en fait. Donc, les réseaux sociaux et les pratiques numériques ne font pas autre chose que ça, en fait. Alors, elles peuvent prétendre à aller plus proche, hein, mais concrètement parlant, en fait, elles ne font que contourner et tenter de poursuivre, justement, un lien avec la personne défunte. Mais les gens qui pratiquent ce type de vision-là, de continuité des liens avec la personne défunte, elles sont pas à penser et à traiter comme des personnes, j'ai pas les mots, mais qui seraient stupides de rentrer dans cette forme de mise en scène, en fait. Mmh. Elles savent très bien ce qu'elles font. C'est-à-dire que c'est une mise en scène à laquelle j'adhère, et parfois je me dis que c'est peut-être un peu stupide, ou que j'y crois pas, ou que j'y crois un petit peu, et qu'en fait c'est plutôt les deux. C'est à certains moments, ça me fait du bien de le faire et je continue de le faire. Parfois je peux trouver ça un peu stupide, mais en fait finalement je vais continuer à le faire. Et ça me fait du bien, et qu'on est dans un registre justement d'ambivalence et de paradoxe, évidemment, mais bienvenue dans le monde des êtres humains. C'est-à-dire que face à quelque chose qui nous dépasse, tel que le décès d'une personne très proche et qui va justement prendre beaucoup de place dans notre vie, on se raccroche à des choses de cet ordre-là. Et après, la question, y croire ou y croire, ne pas y croire, c'est encore autre chose.
Oui, c'est tout ce qu'exprimait l'extrait effectivement de Black Mirror. Ça ne remplace pas, mais ça fait du bien. On est vraiment dans cette idée-là.
Et si je peux préciser, là, pour celles et ceux qui ont vu la fin de
Ah, on ne spoil pas. On ne spoil pas.
Les scénaristes sont très intelligents, c'est-à-dire qu'ils restent sur le mystère.
Ouais. Ah, on spoil pas, on spoil pas. Il est très bien, on en recommande la vue parce qu'il est effectivement particulièrement bien. Pour prolonger dans cette réappropriation du collectif là sur l'aspect du deuil, le sentiment qui se dégage aussi, c'est celui d'une perte de contrôle. Enfin, en tout cas, qui peut se dégager, c'est celui d'une perte de contrôle de la part parfois des proches, conjoints, parents, qui subissent aussi ce maintien en vie artificiel. Pour le coup, Céline Béguin, je me tourne vers vous. Est-ce que vous voulez réagir sur les conséquences juridiques que ça peut avoir? Je pense évidemment à un trouble pour la vie privée des proches qui sont là heurtés par le deuil.
Exactement, un trouble sur la vie privée des proches. Et s'il prenait une dimension trop prégnante, il pourrait faire une action judiciaire en référé pour faire cesser une pratique qui les heurte. Et donc, il faudrait vraiment quelque chose de très motivé, de très justifié. Parce qu'on voit sur la fameuse loi du 7 octobre 2016 qu'on a vu tout à l'heure, les membres de la famille, vos héritiers, vos proches, donc les héritiers, ça peut être aussi votre compagnon de vie, ils peuvent en fait clôturer votre compte, le mettre en mode mémoriel, et en cas de désaccord entre les héritiers, la loi dit qu'on se référera au tribunal judiciaire compétent. Donc ça veut dire que exactement comme quand on se partageait un tombeau, une sépulture, en fait au sens juridique, c'est une universalité partagée par la famille. Eh bien si on n'arrive pas à s'entendre, si on veut une crémation ou si on veut être inhumé, si on ne s'entend pas sur dans quel tombeau de famille on va en fait être inhumé la personne défunte, on a besoin de recourir au juge. Donc vraiment, dans des cas très particuliers, on laisse les familles et faire leur deuil et le droit n'intervient que pour des heurts qui seraient vraiment justiciables, c'est-à-dire assez rarement.
Alors si on va cette fois sur une autre question d'actualité, il y en a beaucoup des questions soulevées par les jurisprudences aujourd'hui, dans un rapport plus individuel, cette fois au deuil, et contemporaine aussi dans la question des réseaux sociaux, on voit des IA capables de recréer des personnes décédées à partir des données. Et donc là, la question, c'est celle que j'ai introduite tout à l'heure en évoquant les deadbots, c'est-à-dire ces avatars ou ces chatbots de personnes décédées qui ouvrent des questions très dérangeantes, évidemment. Quelle différence on fait entre un simple chatbot et cette simulation vraiment réaliste du défunt? Qu'est-ce qui en droit ici est glissant et dangereux finalement?
Alors en fait, on voit que la question des deadbots, donc des robots qui représentent une personne morte, c'est une question ancienne. C'est-à-dire déjà, autour des années 2010, il y avait des personnes qui avaient créé une application personnelle pour recréer par exemple un échange avec un défunt. Et Replica, par exemple, qui a beaucoup de succès à l'heure actuelle, vient en fait de cette origine. C'était un ami défunt de la personne qui a paramétré l'outil. Et avec l'IA, le problème, c'est que la simulation devient d'autant plus réaliste. Je ne sais pas si vous avez vu... Une nouvelle appli qui s'appelle Holo Avatar, qui permet par un grand modèle de langage de créer des échanges et notamment des représentations animées de la personne. Et bien que ce soit une représentation animée ou simplement un agent conversationnel, et bien on peut faire parler les morts à partir des données que l'on a de cette personne, donc des enregistrements, des images, des photographies, des comptes de réseaux sociaux. Mais la question, c'est toujours la vie privée des personnes qui sont toujours vivantes, et le problème de l'emprise que pourraient avoir ces outils. Parce que ce qui peut faire peur, c'est qu'à trop écouter les prédictions que font en fait ces modèles de langage, eh bien on pourrait se déconnecter de la réalité. Et c'est ça en fait qui effraie. Parce qu'on est sur cette emprise, et donc il faut de la transparence, dire qu'on parle vraiment à un outil qui n'est pas une personne, mais bien... une représentation de cette personne. Et avec le règlement sur l'intelligence artificielle, on va vers cette transparence, mais on l'a déjà en matière de données personnelles, où le Comité national d'éthique du numérique avait, dès 2021, pris un avis sur les agents conversationnels en parlant de ces deadbots, en disant il faut être transparent, il faut prévenir les gens qu'ils parlent avec en fait un outil pour prévenir leur santé mentale, pour les préserver.
Alors évidemment, la question de l'emprise ici, elle est au cœur du sujet. Martin-Julien Cottès, Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un vrai risque de dépendance émotionnelle ici à ces avatars.
Alors, c'est difficile pour moi de répondre à, parce que les situations qu'on évoque là sont assez rares pour l'instant. Sur la question de l'emprise et de la question de la dépendance émotionnelle, je ne suis pas psychologue et je laisserai les psychologues ou les psychiatres se prononcer là-dessus. Ma position de socio-anthropologue, c'est juste d'amener des éléments de, comme Céline vient de le faire aussi, sur en fait faire parler les morts. C'est une pratique qu'on a depuis très très longtemps. Et qu'effectivement, là, ça va être l'usage de ces outils-là, qui les utilise, qui les produit, pourquoi. C'est-à-dire que c'est quand même un outil commercial, en fait, donc c'est, et on joue sur ce côté un petit peu assez fascinant des IA, des deepfakes, etc. Et qu'on se rapprocherait de plus en plus d'une simulation presque parfaite du mort. Et en fait, en faisant ça, on ne fait que participer à une mise en scène, en fait. Et que ça, en fait, c'est une mauvaise expression. Depuis très longtemps, en tout cas, on cherche à faire parler les morts et les gens dans des pratiques de deuil plus traditionnelles, si vous voulez, continuent à parler aux morts, c'est-à-dire parler aux morts dans leur tête, parler aux morts parce qu'ils croient que le mort leur répondent, cherchent les morts et des signes des morts dans leur réalité, en fait, et en trouvent. Et que ça, vous avez plein d'éléments aussi très documentés dans les sciences sociales et humaines pour dire qu'en fait, l'humanité, ou en tout cas les êtres humains, une bonne partie d'entre nous, cherche à communiquer avec les morts. Et que là, ce qui est compliqué, c'est de manipuler cet invariant anthropologique qui est le fait de communiquer avec les morts.
En tout cas, ça pose quand même un certain nombre d'interrogations en termes de risques et de dérives pour le juriste. On peut pousser la prévision, enfin, parce qu'évidemment, il y a peu de cas, comme vous le soulignez à juste titre, d'utilisation pour l'heure. Mais quid si un deadbot était piraté? Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à la manipulation des proches avec ce type d'outils? En termes d'influence aussi, ça pose évidemment un certain nombre de questions.
Ben justement, le comité d'éthique du numérique disait qu'il fallait que ce soit un débat sociétal sur les deadbots. C'était en 2021. Une émission comme la vôtre permet justement de le mettre en avant. La CNIL a fait, comme elle le fait chaque année, à peu près au moment de la fête des morts en novembre, elle évoque en fait les traces numériques. Et pour marquer le coup, elle a republié en fait le rapport qu'elle avait publié à l'automne. Donc je pense en fait qu'il faudrait se saisir du sujet, en débattre, se poser la question. Parce que le nombre de personnes qui préfèrent parler à une IA générative plutôt qu'à un psychiatre évolue. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste dans ces questions, mais ça veut dire que c'est un débat sociétal. On doit se poser des questions. Et si on est victime d'une emprise, on va revenir au classique du droit des contrats. Est-ce que vous avez été obligé ou poussé à signer un contrat que vous n'auriez pas dû et qu'on pourrait remettre en cause justement parce que votre consentement n'était pas libre? Est-ce que si vous avez été piégé, il n'y aurait pas la possibilité parce qu'un deepfake, un usage malencontreux vous pousse vers quelque chose, à une poursuite pénale de la personne qui s'est jouée de vous, c'est-à-dire l'escroquerie, l'abus de confiance, la falsification. Et donc, dans ce cas, on aurait les ressorts finalement assez classiques du droit. Donc, je ne vous le cache pas, en matière pénale, pas si simple à mettre en œuvre.
Martin Judier-Costès.
Oui, en complément en fait de ce qu'a produit la CNIL en 2021, en fait il y a une journée d'études qui a été initiée par la CNIL en 2025 et ils viennent de publier justement leurs actes en fait et qui remet en avant encore un peu plus en 2025 ces questions-là. Et je vous invite à aller le voir, il est téléchargeable sur internet. Voilà, c'est une journée qui a eu lieu le 15 octobre 2025 et ça a été initié par la CNIL.
Alors, en complément de ce document, effectivement, qui est à consulter, la question des deadbots, on va continuer à en discuter, ne serait-ce que par rapport à la relation à l'agent conversationnel, parce que le dernier temps là, de nos échanges va nous conduire à discuter de l'exposition à la mort via ces outils numériques. Avant de parler des agents conversationnels, il y a déjà 10 ans, en mai 2016, une jeune femme de 19 ans s'était suicidée en direct via une application Periscope qui permettait la diffusion en temps réel de son quotidien à un grand nombre de personnes. Elle s'était filmée, elle avait filmé son suicide et ça s'était évidemment inscrit dans une démarche qui était très forte de vouloir marquer la mémoire ici de ce qui reste. Céline Biguin, vous avez travaillé en soi sur la question de l'exposition au suicide, démultipliée par les algorithmes des réseaux sociaux, des moteurs de recherche. Alors avant de reparler des agents conversationnels, parce que l'actualité les met aussi à l'honneur tristement sur la question du suicide, qu'est-ce que vous pourriez apporter à la réflexion liée à cette question des algorithmes en ligne? Parce qu'on a ici une dynamique qui est très particulière, une question aussi de la captation de l'attention en fait du public, qui a évidemment une incidence très grande.
Et effectivement, donc les grandes plateformes numériques jouent sur ce travail de capter notre attention et de nous donner tout le temps des éléments pour que l'on reste connecté. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est il y a moins de 10 jours, le 26 mars je crois, notre ministre de l'Éducation nationale a ouvert en fait une réflexion en saisissant le procureur de la ville de Paris en disant, voilà, nous, au ministère de l'Éducation, on a ouvert un compte sur un réseau social, on a dit que la personne elle était mineure, on n'a rien choisi, on n'a rien liké, on n'a rien regardé, et dans la demi-heure arrive tout un flot de vidéos, de scarifications, de questions sur le suicide et sur la mort. Donc par principe, ne rien mettre sur ce réseau et juste dire son âge, c'était problématique. Et c'est vrai qu'on voit qu'entre l'algo speak, vous savez, où on met des petites étoiles, on met des mots pas en entier, on met des emojis au lieu d'employer des mots qui vont être contrôlés, eh bien, on voit que les seuls outils pour contrôler ça, c'est des textes européens, comme le règlement sur les services numériques, le Digital Service Act. Si vous me pardonnez l'expression anglaise malencontreuse, mon accent n'est pas extraordinaire. Mais le DSA. Ça, voilà. Eh bien, là, on voit on est enfermé dans ce doom scrolling, là où on fait que regarder des éléments mortifères. Eh bien, il y a des injonctions qui peuvent être faites aux plateformes de faire une meilleure modération, de contrôler leur publicité. C'est un des grands espoirs parce qu'on fait une approche par les risques et on demande à ces très grands moteurs de recherche, à ces très grandes plateformes, d'être plus responsables, de faire des rapports annuels sur leur transparence, comment elles opèrent. Alors évidemment, la tâche est titanesque, mais aux États-Unis, il y a du groupe Meta qui a été poursuivi récemment pour le même genre de choses. C'est-à-dire que les Américains, avec du droit de la consommation, viennent vers le même type d'objectif que nous avons, tout en disant les Européens régulent trop, eux aussi, ils s'en inquiètent.
Alors cette question de la régulation par les plateformes et au final par... la volonté du moins d'aller chercher dans la chaîne de responsabilité et de causalité de façon plus excentrée, on la retrouve en dernière ligne sur la question des agents conversationnels, les chatbots dont on a parlé, lorsque dans des affaires récentes, on voit une implication de des discussions des personnes qui finalement se sont suicidées, avec un chatbot qui, dans ses propos, dans la façon dont le propos a été tenu, a d'une certaine façon encouragé la personne à se suicider. Je pense notamment à deux affaires en Belgique. Il y a eu le cas d'un jeune homme dépressif qui s'était suicidé alors qu'il avait été en contact avec le chatbot Elisa. Et l'an dernier, aux États-Unis, c'est un jeune trentenaire qui s'était donné la mort suite aux encouragements du chatbot Gemini. Alors dans les deux cas, il y a eu des suites différentes. Enfin, la veuve de la première personne qui s'était suicidée en Belgique n'avait pas souhaité à l'époque porter plainte contre la plateforme américaine, alors que la famille du jeune homme décédé l'an dernier a cette fois poursuivi Google devant un tribunal fédéral de Californie. Alors là, on a une démarche qui est très différente, mais qui montre que l'appréhension juridique peut aussi être différente et qu'il y a peut-être une évolution du droit à cet égard. Au niveau international, au niveau européen, au niveau français, est-ce que vous voulez...
Alors moi, je pense que ces efforts législatifs sont très importants parce que la mise en danger des mineurs en leur permettant en fait des accès illimités à des contenus qui leur sont défavorables, ce qui est connu parce que ces algorithmes sont biaisés et on le sait. Ici, le contrôle du contenu par notification est prévu par le Digital Service Act. On pourrait recourir aussi au texte du droit pénal pour justement se dire qu'il y a une provocation au suicide, parce qu'en France, se suicider, c'est libre, mais par contre, que quelqu'un vous y incite, c'est interdit. Et ici, il y a une famille française endeuillée qui a saisi la justice française. Pour l'instant, je ne connais pas les suites parce que c'était suite à un harcèlement scolaire de leur enfant. Ils ont porté plainte contre TikTok parce que c'était sur ce média qui avait lieu et leur enfant adolescent s'était suicidé. Donc, on voit ici que le Congrès américain avec le Kids Online Safety Act et en même temps la France, on voit des poursuites qui pourraient être sur d'autres secteurs que le numérique et notamment en fait sur des plaintes pénales qui pourraient aboutir à conduire finalement ces réseaux sociaux, ces grandes plateformes à plus investir sur la modération des contenus et surtout à polisser leurs algorithmes, à travailler beaucoup plus intensément sur la régulation, la modération de contenu.
Alors, dernière question peut-être que je vous adresserai, Martin Julien Costes, puisqu'on parle ici de la régulation juridique en cas d'incident, le dommage arrivé. On évoquait tout à l'heure, à l'inverse, une démarche qui est beaucoup plus liée à l'anticipation du droit. L'IA Act résonne beaucoup par une politique d'éthique by design dans le développement des produits. Cette question de l'éthique, est-ce que vous voulez réagir dessus pour finir? Est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à une régulation anticipée de ces risques?
Alors, j'aimerais revenir aussi, tout en répondant à votre question, ce que m'évoquent en fait ces sujets-là, c'est ce que les travaux notamment d'un autre socio-anthropologue qui parle d'ordalie numérique. Pour aller vite, en fait, ce serait que, en fait, on aurait tellement peu de liens non numérisés qu'on s'en remettrait d'une certaine manière uniquement à une IA ou à un objet technologique tel que l'IA, et que probablement que ces situations assez dramatiques correspondent assez bien à, en fait, ces gens-là, en fait, ont été finalement déliés de rapports humains suffisants et en fait l'IA là les a poussés ou en tout cas n'a pas été suffisamment prudente pour les contenir en fait, et que l'IA elle peut et les algorithmes peuvent être dirigés et sont dirigés par des humains en fait, et que vous allez sur YouTube, sur TikTok ou sur Instagram, en fait les régulateurs sont possibles, en fait les modalités de réguler ces outils là sont possibles, et on pourrait imaginer justement, politiquement aussi, de forcer justement ces groupes-là à créer des algorithmes qui médiatisent un peu mieux ces choses-là. Et donc, je voulais juste insister sur, en fait, la technologie, effectivement, peut induire des pratiques de cet ordre-là, et il faut essayer de contenir politiquement. Ça traduit aussi beaucoup des choses de manque de lien de ces personnes-là avec d'autres humains, c'est-à-dire que ce soit des psychiatres, des familles, des amis, du travail. Et que c'est aussi ça qu'il faut se poser comme question. C'est certes, il y a la question technologique, mais qu'est-ce qui fait que ces personnes-là vont jusqu'à se donner corps et âme à un outil technologique, en fait. Là, ça traduit un défaut de nous, en fait, collectivement, de comment est-ce qu'on peut raccrocher les wagons, en fait, et ces personnes-là à justement des personnes humaines qui les rassurent, qui les aiment, qui leur témoignent de l'amitié, etc., justement pour éviter des cas tragiques comme ceux-là, qui sont dans le suicide, comme toujours, très violents et aussi très difficilement saisissables.
Merci beaucoup à vous deux pour ces échanges. Il faudrait l'éternité pour poursuivre ces sujets passionnants. Malheureusement, on arrive au terme de ces échanges qu'on réouvrira donc peut-être avec la suite des débats législatifs. Merci encore.
Merci de votre invitation. Merci.
I'm giving you a
Night Call de Kavinsky pour nous diriger vers le dernier temps de cet échange. Night Call, un titre d'ailleurs qui évoque symboliquement aussi la vie après la mort. Alors on termine l'échange avec une lecture, cette fois constituée de deux extraits de presse. Le premier est issu d'un article de Serge Anderlin publié dans Le Monde du 12 juillet 2024. Le second date d'il y a quelques mois, écrit par Théo Ferrand et publié le 22 janvier dernier sur le site euronews.com. Le Monde, 12 juillet 2024. C'est une capsule au design élancé, dont l'aérodynamisme suggère qu'elle doit bien avancer dans le temps et l'espace. L'engin présenté ces derniers jours en Suisse après 2 ans de polémique fait sensation. D'autant plus que le voyage qu'il propose est de ceux dont on ne revient pas. Baptisé Sarco, pour sarcophage, la boîte permet à une personne de se suicider sans aide extérieure. À l'intérieur, le candidat au trépas volontaire n'a qu'à appuyer sur un bouton qui libère de l'azote, dont la saturation provoque la perte de conscience de l'individu qui manque d'oxygène, puis la mort sans douleur en quelques secondes. La méthode ne nécessite pas de poison à avaler ou injecter dans les veines, et comme les matériaux qui composent Sarco sont biodégradables, cette dernière peut aussi servir de cercueil. Le lancement de l'engin aura lieu en Suisse ces prochaines semaines. Le premier candidat, un malade en phase terminale, serait déjà arrivé dans la Confédération pour son dernier voyage, selon Philippe Nitschke, médecin de son état à l'origine du projet. Euronews, 12 janvier 2026. La première et unique utilisation de Sarco en Suisse, en septembre 2024, a déclenché un tollé international. La police a arrêté plusieurs personnes, dont Florian Villette, PDG de l'organisation d'aide à la mort The Last Resort, et a ouvert une procédure pénale pour complicité de suicide. Les autorités suisses ont par la suite déclaré que la capsule était incompatible avec le droit suisse. Willette a été libéré en décembre. Peu de temps après, en mai 2025, il est décédé par suicide assisté en Allemagne. Les procureurs suisses n'ont pas encore déterminé si des charges seront retenues dans l'affaire Sarco. L'appareil original reste saisi, mais Philippe Nitschke affirme qu'une nouvelle version, comprenant une capsule dite « Double Dutch », conçue pour permettre à 2 personnes de mourir ensemble, est déjà en cours de construction. L'idée de Philippe Nitschke d'intégrer l'intelligence artificielle dans l'appareil ne fait qu'ajouter à la controverse. En vertu des lois sur l'aide à la mort en vigueur dans le monde entier, une personne doit être jugée mentalement apte à mourir, une décision généralement prise par des psychiatres. Nitschke estime que ce processus est profondément incohérent. J'ai vu de nombreux cas où le même patient qui consultait 3 psychiatres différents obtenait 4 réponses différentes, a-t-il déclaré. On peut vraiment s'interroger sur la nature de cette évaluation d'une qualité nébuleuse. L'alternative qu'il propose est un système d'IA qui utilise un avatar conversationnel pour évaluer la capacité. Vous vous asseyez et vous abordez les questions dont l'avatar veut vous parler, explique-t-il. L'avatar décidera alors s'il pense que vous êtes capable ou non. S'il y a détermine que vous êtes sain d'esprit, la capsule de suicide sera activée, vous donnant une fenêtre de 24 heures pour décider de poursuivre ou non le processus. Si ce délai expire, le test de l'IA doit être recommencé. Selon Nitschke, les premières versions du logiciel fonctionnent déjà, bien qu'elles n'aient pas été validées de manière indépendante. Pour l'instant, il espère que les évaluations de l'IA se feront en même temps que les examens psychiatriques. Nous savons que les évaluations de l'IA sont entachées de préjugés, explique-t-il. Nous pouvons faire ce qui est en notre pouvoir pour les éliminer. Les psychiatres restent sceptiques. Je ne pense pas en avoir trouvé un seul qui pensait que c'était une bonne idée, ajoute-t-il. Les critiques avertissent que ces systèmes risquent d'interpréter la détresse émotionnelle comme un consentement éclairé et s'interrogent sur le degré de transparence, de responsabilité ou d'éthique qu'il y a à confier des décisions de vie ou de mort à un algorithme. Céline Béguin, Martin Julier Costès, cette actualité résonne avec nos échanges et ouvre encore un débat supplémentaire sur la place de l'IA dans l'assistance à mourir. Est-ce que vous souhaitez réagir quelques mots ?
Alors, vous me mettez en fait face à une question qui est une question extrêmement difficile, puisque est-ce qu'une IA est plus adaptée qu'un médecin spécialisé, un médecin psychiatre notamment, pour déterminer si vous avez les conditions requises pour ou non mettre fin à vos jours avec les nouveaux dispositifs. Moi, je trouvais formidable qu'il puisse y avoir une instance collégiale, un débat, une discussion. À un instant précis, on peut vouloir mourir et deux jours après avoir changé d'avis. Et le fait de se projeter et de se mourir, c'est à mon avis plus complexe qu'un tirage de dés à un moment précis. Et donc, je suis inquiète d'un processus où on aurait une IA qui, finalement, avec le biais cognitif que la machine a toujours raison, vous inciterait en fait à mettre fin à vos jours, alors que peut-être que vous êtes épuisé, vous avez besoin en fait de soins palliatifs, mais peut-être que votre volonté de mourir, elle serait plus présente immédiatement, mais que cet outil technologique vous mettrait comme dans une obligation de suivre cette voie.
Martin, vous voulez dire un mot ?
Je souscris pleinement à ce que Céline vient de dire, et j'ajoute simplement qu'effectivement, ça pose des questions sur la responsabilité et la responsabilité collégiale en fait. Et sociétale d'une certaine manière, et qu'en fait ces pratiques-là sont très sensationnalistes, et on a vu que les Suisses là justement ont dit qu'en fait ce n'était pas légal, et on poursuivit les personnes, et que ça met en avant encore ce fantasme de je pourrais choisir tout seul, ou je pourrais proposer une solution qui puisse permettre à une personne de décider toute seule de sa propre mort. Et ça c'est toujours très intéressant de voir comment on actualise ce fantasme-là, mais qu'en fait, ça pose toujours la question des autres, c'est-à-dire, est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'on permet ça, et que ça, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, avec l'IA, on verra, en fait, on arrive à contenir ça et à prendre en compte le fait que non, nous ne sommes pas seuls, et nous devons, et nous comptons sur les autres.
Merci à vous qui nous écoutez d'avoir suivi cette nouvelle émission des Temps électriques. J'y ai reçu aujourd'hui Céline Béguin-Fenel, maître de conférence en droit privé à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Martin-Julier Costès, docteur en sociologie, chercheur associé au laboratoire de sciences sociales PACT à l'université Grenoble-Alpes. Une émission enregistrée avec l'aide de Léobardo Arango. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission sur le site d'Amicus Radio. À très bientôt.